maître chanteur. Voilà.
Ah ouais, carrément. C'est du chantage.
Et t'appelles ça comment?
Pour certains, ça s'appelle ceux qui font grève, c'est une lutte sociale.
Ah non, la lutte sociale, 48 heures avant le plus grand rendez-vous de l'année, c'est des maîtres chanteurs. Mais, ils le font en leur âme conscience. Ils pensent.
C'est
l'opportunisme
Hier, on les avait en ligne, Renaud Muselli, on les avait en ligne, justement, les éboueurs marseillais, qui disaient on a eu des promesses, elles n'ont pas été tenues.
Comme par hasard.
Sur le taux de pénibilité, etc.
Il y a un an, il y a une grève olympique.
Ils ont été réquisitionnés. C'était pas le syndicat majoritaire. C'est arrivé 48 heures avant. Bon, mais voilà. C'est très honnêtement très secondaire.
Mais qu'est-ce qu'on dit aux Français ?
Le vieux port est propre. La ville est propre. Aujourd'hui, tout est prêt. Et on est heureux, au-delà de cet incident, au-delà des problèmes que nous avons aussi ici dans cette cité, de montrer que on a un territoire absolument exceptionnel et que cette deuxième ville de France mérite d'attention. Donc merci au président de la République d'ailleurs de nous porter aide, assistance et bienveillance. Après, pour le combat politique et nos différences, trêve olympique.
Ouais, mais dans un sondage publié hier par BFM TV, sondage Elab, on voit quand même qu'une majorité des Français restent assez, pour l'instant, indifférents à ce qui se passe. Est-ce que c'est normal parce qu'on est encore loin? Ça va démarrer vraiment à partir d'aujourd'hui et que petit à petit la ferveur va monter et que plus on va avancer vers les jeux, plus les Français vont.
Je pense que c'est assez normal. Si je regarde sur la région, les retombées en quelque sorte, on a mobilisé les différents départements pour que ce soit terre de jeu et donc que la flamme olympique passe dans les différents villages. Ouais. Ah mais il faut voir la tente dans les villages. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire le maire qui organise ça dans son village.
À chaque fois, ça va être la fête.
C'est colossal, en fait. Donc c'est immensément populaire. Ouais. Alors petit à petit, je pense que ce Tour de France, qui est une très bonne idée de terre de jeu, va faire en sorte que petit à petit, mais c'est sympa ce truc. C'est génial. Pourquoi je ne l'ai pas porté, moi, à la flamme? J'y suis allé, je l'ai vu.
Et on va peut-être même s'en rendre compte plus facilement dans un petit village, une petite ville, que dans les grosses métropoles.
Celui qui arrive ici, vous avez 150 personnes sur le port, excusez-moi du peu. On n'est pas chez les enfants de cœur, là. Il y a 150 000 personnes sur le port, mais on l'a déjà fait. C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une terre de jeux. On a organisé des compétitions internationales à Nice, on va recevoir le Tour de France, on a fait la Coupe du Monde de rugby, on a fait les Jeux Olympiques. Ici, on a fait la Marseillia, la Marseillaise. C'est 100 000 personnes sur le port, sans un coup de couteau, sans une bagarre, avec la fête. Hier soir, il y avait combien de personnes? Je ne sais pas, 50 000 personnes. Exceptionnel.
Et vous avez gagné la Ligue des Champions en 93 aussi.
Et on a gagné la Ligue des Champions.
Et peut-être en 93.
Paris est vachement sympa parce qu'hier soir, ils n'ont pas gagné.
Je sais, vous étiez pour l'Allemagne comme d'habitude.
Non, pas du tout. Je suis pour la France, moi, mais je suis malheureux qu'ils aient perdu.
On vous a vu applaudir les buts de Dortmund. Renaud, justement, un pronostic pour demain, parce qu'il y a Atalanta Bergame Marseille.
Je suis malheureux d'abord parce que je comptais y aller, mais comme il y a la flamme toute la journée ici, que j'ai des manifestations, qu'on va à la Cité internationale Jacques Chirac, on fait beaucoup de choses dans la région et je fais le tour de la région aussi, donc je peux pas y aller. Donc ça me peine. Parallèlement à ça, quand même, c'est jouable, c'est vraiment jouable.
Ouais.
C'est à portée de main.
Il y a un coup à jouer.
Vraiment, ouais.
Merci.
À portée de main. Et puis très honnêtement, si cette semaine,
et Zizou alors,
ça serait bien.
Et Zizou, vous êtes président.
Non, il est content.
Cette année, là, regardez aujourd'hui, tout le monde se régale, voir le bateau.
C'est la bonne semaine pour Marseille.
Tout, etc. 150 000 personnes, tout va bien. En plus, demain, poum, on bat les... Et au revoir.
Italiens, ciao, viva.
Allez, en voiture, Simon.
Merci, M. Muselier.
Oui, pardon.
Et Zizou, alors. C'est lui le dernier qui l'apporte?
Je sais pas, moi.
Ouais, président de la région, vous savez pas.
Moi, je sais ce que je viens de savoir.
Merci Renaud Muselier.
Merci à vous.
Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, merci d'être passé par le plateau des GG, le plateau des Grandes Gueules. On se quitte avec une magnifique image du Bélème. Il est à quelques encablures, justement.
Il est loin, là, mais on le voit, on l'aperçoit.
Des côtes marseillaises, il est à 4-5 000 au large. Ouais. Il rentrera ce soir dans le port avec la flamme et puis la vasque va s'allumer. 150 000 personnes sont attendues. On va continuer d'en discuter, d'en parler ici sur RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 sur RMC Story. On est à la radio, on est à la télé. Dans un instant, allez, une discussion à la mode grande gueule. On va évoquer ce que dit le président de la République. Le devoir de visite pour les parents absents. Il parle beaucoup des divorcés, de la famille. Le chef de l'État, dans une interview au magazine Elle, est-ce qu'il faut instaurer un devoir de visite pour les pères, pour les papas après le divorce, pour ceux qui ne sont pas les plus assidus auprès de ce qui était leur foyer. 32-16 pour venir en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire ? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Hop! Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec vous de 9h à midi sur un, bah, il faut reconnaître, une terrasse exceptionnelle. C'est la terrasse du Mucem, nous sommes face à la mer avant l'arrivée de la Flamme Olympique ce soir, à bord du Belém, ce magnifique voilier. On est face à la Méditerranée d'un côté avec le port de Marseille dans notre dos avec Didier Giraud, l'agriculteur, qui voit la mer pour la deuxième fois dans sa vie. Joël Dagosséry qui nous accompagne à coup de vie. Et Mehdi Guézard, le patron de PME qui est avec nous.
Le panorama est exceptionnel parce qu'en plus on voit tous ces bateaux qui sortent du port de Marseille pour aller accueillir le Belém. Le Belém, il est au large. Hein. Oui. Il va se balader d'ailleurs du côté de la rade nord et ensuite la rade sud avant d'entrer dans le port. Et les bateaux, il y a plus d'un millier de bateaux prévus. Ces bateaux vont accompagner l'arrivée du 3 mâts qui, rappelons-le, est parti fin avril du Pirée, le grand port grec, pour rejoindre la cité phocéenne.
Ah, avec un énorme porte-conteneur à l'entrée de Marseille où il y a écrit Paris 2024. Ça, c'est kiffant.
Oui, alors c'est ça qui est marrant.
Ça, c'est kiffant.
On est à Marseille, mais Paris 2024 est partout.
Hier, il y avait même dans le ciel, il y avait écrit Paris 2024, un soir de défaite de Ligue des Champions. Je peux te dire que ça m'a mis...
C'est ça la trêve olympique. Oui, c'est Paris et Marseille.
C'est ça qu'on appelle la trêve, Mehdi, tu vois.
Ouais, ouais.
Alors, tout à l'heure, on en parlera à 11h-20 avec Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba, c'est l'un des humoristes les plus populaires du moment.
Il remplit le vélodrome.
Oui, il remplit le vélodrome. Il va être porteur de flamme. Vous l'avez vu, vous n'avez pas pu le rater à la télévision. Il sera avec nous tout à l'heure à 11h-20. En attendant, on va faire une petite trêve, là, parce qu'on parle beaucoup des JO. C'est normal. En plus, je vous dis, RMC est la radio officielle des Jeux Olympiques. Mais on va s'intéresser à un sujet de société qu'a évoqué le président de la République dans le magazine Elle.
RMC, les grandes gueules.
Oui, le chef de l'État, dans cet entretien, estime que les deux parents doivent exercer leur responsabilité à l'égard de leurs enfants, c'est-à-dire lorsqu'ils ont divorcé. Et il veut instaurer, le chef de l'État, un devoir de visite pour les pères absents.
Oui, parce qu'on sait qu'en France, il y a de nombreuses familles monoparentales et 85% de ces familles monoparentales, donc avec un seul parent, c'est 1,7 million de Français, sont élevés par des femmes. Les enfants sont élevés par des femmes. Le père ne vient pas, ne paye pas souvent la pension alimentaire, ne rend pas visite à son gamin ou à ses gamins. Et donc Emmanuel Macron veut insister sur les droits, mais aussi les devoirs. C'est un devoir d'être parent et d'assumer sa progéniture. Et donc il voudrait, alors on ne sait pas vraiment dans quel cadre encore, ça reste un peu flou, mais dans cet entretien accordé au magazine Elle, il estime qu'il faudrait mettre en place un devoir de visite pour les pères absents. Est-ce que c'est faisable, souhaitable, imaginable ?
Joël Dagosséry.
Non, c'est un sujet qui m'intéresse. Déjà, je suis enfant de parents divorcés, je suis séparée du père de ma fille, donc c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Je suis contente que le président de la République s'intéresse à ça, à l'absence du père. Je veux dire, il n'a rien inventé. Normalement, dans le droit, le père, la mère, on a une obligation.
C'est déjà prévu.
Voilà. Donc, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, là, il n'invente pas le fil à couper le beurre.
Mais est-ce qu'on peut imposer à un père d'aller voir son gamin, d'aller le voir, de s'en occuper?
Normalement, en tant que mère, si le père n'exerce pas ses responsabilités, tu peux aller devant la justice et demander à ce qu'il exerce ses responsabilités. Moi, j'aimerais plutôt qu'on porte l'attention sur autre chose, parce que dans ces familles monoparentales, il y a aussi un nombre de mamans qui empêchent le père de voir ses enfants comme il le souhaite, qui bloque l'accès au père. Alors, pour diverses raisons, il y a des raisons qui sont de violence, c'est-à-dire que le père a été violent, et on sait qu'en France, souvent, on accorde un droit de visite à un mari qui a été violent, parce qu'on peut quand même se poser des questions sur sa capacité à être père. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, des fois, juste une mésentente, et l'enfant, peut être, l'enfant peut être au centre du jeu. Moi, je sais, parce que mes parents se sont fait la guerre pendant très longtemps pour la garde. Mon père était très actif et il était de ses pères qui estimaient qu'il devait avoir la garde de ses enfants. Et donc, quand t'es enfant, tu te retrouves un peu au centre du jeu de parents qui...
n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment... C'est à la justice de déterminer ce qui se joue, mais aussi de faire jouer...
Donc parfois, quand les pères sont absents, c'est ça parfois peut être, contre leur gré.
Je sais que beaucoup de femmes ne vont pas être d'accord avec moi, mais je le dis et je le maintiens, que beaucoup de femmes compliquent l'accès à l'enfant au père. Et les pères sont peut-être un peu moins vindicatifs, etc. Et donc, ils peuvent un peu laisser tomber. Voilà, il y a aussi cet aspect des choses.
Didier, tu l'as dit.
Toi aussi, tu as divorcé.
Oui, mais ça s'est toujours plutôt bien passé. Tu dis, je suis content qu'Emmanuel Macron s'intéresse à ces sujets. Mais c'est bien de s'y intéresser. Mais concrètement, qu'est-ce que tu peux ? Parce qu'on en fait souvent le constat. Une partie des problèmes qu'on a dans la société française et par rapport à la jeunesse, c'est les problèmes d'éducation. Ouais. Que ces problèmes d'éducation sont souvent liés au rapport à l'autorité et que dans les familles, c'est parfois le père qui incarne le plus l'autorité. Ouais. Mais quand le père, il a choisi d'être absent, en dehors des cas que tu dis où la mère fait obstruction, quand le père, il a choisi d'être absent, moi je suis d'accord que Macron, il s'intéresse au sujet, mais qu'est-ce qu'il a comme moyen pour rendre le père présent quand il est absent ?
Aucun.
Moi, je crois que c'est du blabla, une fois de plus, et que tu n'as aucun moyen de contraindre le père à assumer sa part d'éducation de ses enfants quand il a choisi d'être absent. Quoi.
Bah si, je suis pas d'accord.
Annonce sans lendemain.
Alors Mehdi.
Annonce sans lendemain, comme d'habitude. La politique politicienne à deux balles qui ne sert strictement à rien pour faire un article dans Elle, magazine. Tout simplement.
Pourquoi ?
Pour plaire aux
Et pourquoi tu dis que c'est une annonce bidon ?
Parce que tu ne peux pas imposer par la loi... Tu ne peux pas imposer par la loi avec la contrainte de corps pour qu'un père qui n'a aucune responsabilité morale, qui est un débile fini, qui abandonne ses enfants, de venir voir ses gosses, tout simplement. Ouais, mais arrêtez de croire que vous êtes au pays d'Alice, Alice au pays des merveilles. Oui. Tu vas pas dire à un mec qui n'a pas de cœur, qui ne s'occupe pas de ses gamins, je vais te ramener un flic pour t'emmener voir tes gamins.
Mais c'est pas seulement.
Mais arrêtez, c'est pas seulement
des pères qui n'en ont rien à faire de leurs gamins. C'est aussi des pères qui sont un peu légers, qui disent ce week-end, je le prends pas. Et t'as la mère qui dit etc. Donc il y a des pères qui sont complètement absents, mais il y a des pères aussi qui sont un peu légers et qui pensent qu'ils peuvent s'arranger avec le droit de visite et dire à la mère bah, ce week-end je peux pas. Joël. Écoute, on s'arrange. Moi je pense qu'une contrainte financière.
Comme d'habitude, le pognon.
Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas pas le menotter.
Comment ça la contrainte financière ?
Je suis désolée. Il y a plein de choses pour lesquelles on nous saisit, on te saisit, on te fait des saisies sur le compte ou sur le salaire. Bah je suis désolée. T'assumes pas ton rôle de père. T'es condamné par la justice. T'es saisi sur ton salaire et ça va te faire très mal et tu vas te mettre à réfléchir à deux fois avant de sauter ton c'est pas la pension alimentaire,
ça s'appelle la pension alimentaire.
Joël, quand tu regardes le taux de paiement des pensions alimentaires derrière un jugement qui est à peu près nul, qui est dans des proportions en dessous de 50%. Alors, je veux dire, mais rajouter une contrainte supplémentaire
où il y a un fonds qui a été créé par la CAF avec une garantie de l'État. Excusez-moi, moi je vais vous le dire.
Le droit de visite et la pension alimentaire,
Emmanuel Macron, en tant que président de la République, ne peut pas s'occuper de tout et de toutes les problématiques. Il y a assez de problèmes dans la vie pour rajouter des problèmes comme cela. Moi, je vais vous donner mon avis, et c'est un avis tout à fait personnel. Il y a énormément de pères, d'accord, parce qu'on les oublie très souvent, parce que 80% à 85% des droits de garde sont donnés toujours à la maman, d'accord. Mais il y a énormément de pères qui sont toujours empêchés par leur mère de voir leurs enfants. D'accord ? Pour diverses raisons. Oui. Par jalousie, parce que le père, il a quitté la mère, parce qu'ils ne se sont pas entendus, parce que si, parce que ça. D'accord ? Donc maintenant, on veut toujours culpabiliser le papa. On veut toujours le faire passer pour le salaud. On veut toujours le faire passer pour le méchant.
Ça peut arriver aussi.
D'accord ? Ça peut arriver.
Les pères qui disparaissent, ça arrive.
Ça arrive. c'est vrai régulièrement, mais ce n'est pas une généralité. Donc de criminaliser en quelque sorte comme ça le père, d'accord ? Il faut savoir, il faut avoir des tenants et des aboutissants de tous les cas différents.
Mehdi,
chaque cas
j'ai compris.
Est bien différent.
Mais Mehdi, moi ce qui m'avait frappé, c'est que dans les derniers faits divers impliquant des mineurs et parfois des faits divers tragiques, parce que ça se termine par la mort d'un autre mineur, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois, il n'y a pas de père. Le père a disparu.
Alors, le père est absent. Il y a plusieurs raisons.
Pourquoi le père n'est pas là ?
Le père est absent parce que c'est un idiot et qu'il n'a aucun sens de la responsabilité. Et c'est ça arrive, et je le dis et je le redis sur ce plateau, mais des fois, ce n'est pas que de son fait.
Alors, on va en parler.
Ouais. Il faut aussi savoir.
Ouais, mais du coup, c'est un point commun.
Tu mets une loi pour criminaliser la chose. On va te dire encore, comme d'habitude.
C'est pas criminaliser, amende, c'est responsabiliser.
Amende, non, mais pénale.
La responsabilité, c'est pas criminel. Il faut responsabiliser,
c'est
pas criminaliser.
Après la mort d'un père.
Pour moi, c'est de la flûte du président.
C'est sûr.
Elle magazine, c'est de la flûte. Ça ne va aboutir.
D'accord. Alors, attends, justement. On va en parler avec Sophie, qui est avec nous au 32-16. Bonjour Sophie.
Bonjour Aigle.
Bienvenue Sophie.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Séparée, Sophie.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il faut instaurer un devoir pour le père, alors ?
Non, pas du tout, parce que je pense qu'on ne peut pas obliger un parent à aimer ou s'occuper de son fils. Moi, j'ai mon ex-conjoint, il ne s'est jamais intéressé à notre fils. Depuis sa naissance, malheureusement, il ne s'est pas investi. Et ça fait 7 ans qu'on n'a aucune nouvelle.
Voilà.
Ah, carrément.
Ah ben voilà.
Oui.
Avec ce mec-là,
quel moyen il y a.
Avec ce mec-là, tu veux dire quoi ?
Oui, mais...
Le mec, il n'a pas de fibre paternelle.
Oui, ça, c'est un.
Il est complètement à côté de la plaque. Tu vas lui dire quoi ? Tu vas lui envoyer un huissier de justice ? Tu vas lui envoyer une convocation de justice ?
Attendez. Sophie,
je ne veux pas l'obliger à aimer son fils. Ouais.
Sophie.
Son sang, son ADN, il l'a perdu.
Donc ça veut dire. D'accord, mais est-ce que ça manque au fils ?
Et bien sûr que ça manque.
Attendez.
Non, alors on a vécu des choses compliquées avec mon ex-conjoint. Quand je l'ai quitté, mon fils avait 1 an et demi. J'ai toujours fait en sorte qu'il reste en contact avec son père. Mais à un moment, comme je vous dis, voilà, on peut pas obliger le parent à s'occuper de son enfant.
Au moment de la séparation, qu'est-ce qui avait été décidé ?
Alors j'ai la garde exclusive.
D'accord. Il n'y a pas un droit de visite ou il n'y avait pas des visites prévues un week-end sur deux
non.
Ou...
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que j'ai eu de la violence psychologique quand j'étais avec lui. Il m'a menacé d'un couteau. Lorsqu'il a pris notre fils, il a dû le prendre trois week-ends. Ça s'est très mal passé. Il lui a donné une forte fessée. Mon fils est rentré à la maison. Il a fait une crise d'hystérie. Il s'est fait pipi dessus. Et il m'a dit, maman, je veux plus aller voir papa.
Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est plutôt un père nocif.
Voilà. Et ce mec-là, tu vas l'obliger à aller voir son gosse.
Mais arrête, Mehdi. La justice, elle sait très bien faire la différence. Puisque là, pour Sophie, la justice a dit, garde exclusive pour la maman. Donc, dans ces cas-là, le juge a fait son boulot. On ne parle pas de ce type de cas.
Mais Joël, il y a le cas de ce père toxique. On est d'accord. Finalement, c'est une bonne chose que le fils ne le voit pas. Mais ensuite, il y a le cas, toi tu dis, des mères qui font tout pour que le père n'ait pas de contact. D'accord, ça on peut le régler.
Ah oui.
Mais après, il y a des pères qui finalement sont pas toxiques, mais ouais. se désintéressent oui. peu à peu de leur enfant. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux ?
Ce type de papa doit être condamné par la justice. Et je te dis qu'au-delà de la pension alimentaire qu'il verse, s'il la verse, on doit lui imposer une contrainte financière en plus. Pourquoi je dis
Donc
ça ?
Du pognon.
Non, pourquoi je te dis ça ? Parce que le problème de la mère seule, il n'est pas simplement que le papa n'est pas là. Il est aussi sur ses revenus. Elle se lève à 6h du matin. Oui, elle va faire du ménage de nuit, etc. Elle s'occupe quand de ses enfants quand elle doit faire enchaîner 3-4 missions dans la journée. Donc, excuse-moi, les enfants que tu vois qui sont dans les rues, c'est aussi parce que le père est absent, mais aussi la mère est absente.
Joël.
Et elle est absente pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assez de revenus. Elle doit se taper deux boulots. Donc, excuse-moi, un père, on ne peut pas le contraindre en lui mettant les menottes pour qu'il vienne récupérer son fils ou sa fille. D'accord. Mais par contre, on peut lui prendre de la thune pour que cette maman-là, elle est à faire moins de boulot et qu'elle ait du temps pour rester à la maison.
Joël,
donc, oui, c'est un enjeu de s'occuper de ce genre de papa.
Je te le dis à toi personnellement, parce que tu sais très bien tout le respect et l'attention que j'ai pour toi. Tu es une amie dans la vie, d'accord, Joël? Et je te le dis, et tu sais très bien que ce que je vais te dire, c'est exactement ce qui va se passer. Ce projet de Emmanuel Macron ne va jamais exister. Tu le sais que c'est une annonce.
Ça c'est...
Excuse-moi, Joël. Tu sais que c'est une annonce sans lendemain. Bon. Tu le sais qu'il a fait ça pour son interview, pour lancer des projets qui n'aboutiront, qui n'aboutiront jamais. Toi, Joël, dans ton idée, tu veux rajouter du pognon à du pognon, des amendes à des amendes, des restrictions financières à des. Je te le dis, un homme qui n'a pas la fibre paternelle, d'accord.
Oui, mais peu importe.
Alors, attends, Mehdi,
s'il travaille, il a de l'argent, donc.
Mehdi, Joël et Didier, pardon. Un sujet sensible qui concerne des millions de gens.
Donc il y a beaucoup d'appels au 36.
Voilà, on va prendre le temps d'écouter encore Océane dans un instant en direct sur RMC avec ce que dit le président de la République. Faut-il instaurer un devoir de visite pour les pères absents en cas de séparation dans le couple, peut-être dans l'intérêt des enfants, hein, tout de suite avec les GG en direct de Marseille sur la terrasse du Mucem, en direct sur RMC, surtout RMC Story.
RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules en direct de Marseille. Sur RMC tous les matins dès 6h30. Commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils. Un journal toutes les demi-heures. Les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39.
RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story, les Grandes Gueules toujours en direct de la terrasse du Mucem ici à Marseille. Qu'est-ce que vous voulez? On a la terrasse face à la mer avec les centaines de bateaux qui sont en train de sortir pour accueillir le Belém. Donc le spectacle, c'est vrai qu'il est sous nos yeux. Donc là, les GG sont là, regardez, effectivement.
On a surtout des auditeurs des GG qui viennent nous voir, qui sont en bas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas ouvert au public pour des raisons de sécurité, et puis ça s'y prête pas, cette terrasse du Mucem. Donc on va les saluer quand même, et ils sont sympas parce qu'ils sont venus nous voir, ils sont venus voir les Grandes Gueules.
On va continuer avant d'accueillir Redouane Bougueraba, l'humoriste qui portera la flamme demain. On va continuer notre discussion, parce que c'est vrai que ça appelle beaucoup au 32-16 sur ce que dit le président de la République à propos de l'instauration d'un devoir de visite pour les pères absents en cas de séparation du couple, de divorce. C'est Océane qui va en parler avec nous. Bonjour Océane.
Bonjour.
Bienvenue. Est-ce que vous approuvez l'idée du président de la République ou pas?
Alors, sur le principe, oui, mais en fait, c'est un gros problème de sémantique qui me dérange. Moi, je suis belle-maman. La faire un peu courte, j'ai rencontré mon mari, sa fille avait 1 an et demi, ils étaient séparés. On s'est battu pour avoir une garde alternée. Et je dis « on » parce que c'est vraiment un parcours du combattant pour le couple. On s'est battu pour avoir une garde alternée. On a déménagé au gré des déménagements de la maman. On s'est adapté, on a toujours eu un domicile hyper accueillant avec une chambre pour cet enfant. Enfin, vraiment tout, on a suivi vraiment l'évolution de cet enfant. On a eu nos propres enfants. Et puis au gré des volontés des juges qui disent que ben en fait l'enfant doit rester chez la maman, que la maman ça reste la maman, que les frères et sœurs chez la maman sont des frères et sœurs, les frères et sœurs chez le papa sont des demi-frères et sœurs parce qu'il n'y a pas le lien de la maman. Donc ça c'est vraiment des juges qui mettent ça en avant. Donc déjà à partir de ce moment-là, on voit bien quand même qu'il y a une vraie négation du papa qui lui veut s'investir et qui n'est pas, c'est ça, et qui n'est pas du tout considéré. On met en avant oui, mais alors la maman, la pauvre, n'a pas de situation. Le papa a une situation très calée, très. Bah, c'est pas grave, on va lui prendre une grande pension alimentaire. Voilà, on amène plein d'arguments. On va en justice, on fait appel, on paye les frais de justice de la maman puisque la pauvre n'a pas les moyens. Donc tout ça, ça dure. L'enfant aujourd'hui a 14 ans. Ça fait 3 ans que on ne la voit plus, que la maman,
puisque la, refuse la, de vous la ramener.
C'est ça, puisqu'en fait, elle a récupéré la garde pleine au gré des déménagements, hein, parce qu'il y a un moment, on ne peut plus suivre. Hein.
Mais elle a 14 ans, elle, a 14 ans ouais. Elle peut être quand même entendue par un juge, cette fille.
Oui, sauf que le problème, c'est que ça fait 7 ou 8 ans que sa maman lui, met lui bourre le crâne, en fait.
Ouais.
Donc, vous entendez le discours de la gamine aujourd'hui, elle a eu que le son de cloche de sa maman, elle n'est pas au courant de tout ce parcours du combattant,
donc, on demande fait, ce que des, vous médiations. Dites... des médiations. Ouais. Ouais. Ce que vous dites, Océane, c'est qu'on aura beau instaurer un devoir pour le père, ça ne résoudra en rien les problèmes qu'il y a entre un homme et une femme, oui, entre des parents divorcés.
Oui, mais ce que j'entends dans le témoignage, c'est qu'on a quand même une magistrate ou un magistrat qui prend fait et cause pour la maman et qui n'entend pas les demandes du père.
Vous imaginez quand même, il va falloir aussi que les juges... C'est ça, parce que la juge a quand même... vous voyez, on avait une chambre, par exemple, pour l'enfant, c'est un cas un peu spécifique, mais chacun de nos enfants, on a 3 enfants, chacun de nos enfants avait une chambre, et quand la juge, on lui dit, oui, mais elle dort avec ses 2 frères et sœurs, elle n'a pas de chambre, la maman dort dans le salon, enfin, je veux dire, il y a aussi une dynamique dans l'habitation et dans la vie familiale, où on est plus stable, la juge a quand même été capable de dire, oui, mais ça sociabilise les enfants. Donc, il y a un moment, vous pouvez tout faire...
On
fait dire tout, mais je pense que le cas d'Océane, c'est aussi un cas. Alors, je ne sais pas s'il est particulier, s'il est minoritaire ou majoritaire, mais c'est un cas où le papa. Non, mais c'est un cas où le papa veut jouer son rôle.
Exactement.
Et c'est le moment qui l'en empêche.
Ouais, je pense que le collège, par exemple, n'était même pas au courant.
Macron, il s'adresse aussi au cas où les papas ne veulent pas jouer leur rôle, parce qu'il y en a aussi.
Merci, Océane. Merci de ce témoignage.
Merci, Océane.
Merci d'avoir été avec
nous. Bon courage à vous.
Ouais, et puis on verra ce qu'il advient de cette proposition d'instauration du devoir de visite pour les pères absents. C'est de la flûte d'Imedi Guézard à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il vient d'arriver sur le plateau des GG.
C'est
Redouane Bouguerraba qui est avec nous, l'humoriste qui va porter la flamme demain. Bonjour Redouane.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci, bienvenue à vous. Je suis marseillais,
on est
à la maison.
On est chez vous.
Bienvenue chez moi.
On est fiers de porter la flamme.
Très très fiers.
Comment vous l'avez appris? Comment ça s'est fait?
Je l'ai appris, on m'a appelé, on m'a dit voilà, comme tu représentes Marseille, tu vas faire le stade Vélodrome, tu es né juste derrière ici au panier, ça serait bien, on essaie on veut une représentativité des talents marseillais. Ouais. Est-ce que ça te dirait de porter la flamme quelques centaines de mètres? J'ai écouté depuis tout petit, moi je suis prêt. Mon père me disait rapporte-moi la télécommande, rapporte-moi du pain. Du coup, j'ai toujours apporté des trucs pour mes parents. Je savais pas que ça allait me servir un jour dans ma vie.
Vous la rendez à qui la flamme
là? En fait, c'est un relais. Hein. Le but du jeu, c'est qu'elle arrive au stade Vélodrome et il y a des très bons porteurs de flamme.
Vous parcourez combien de mètres?
Moi, je peux faire toute la distance.
D'accord.
Je suis préparé physiquement.
Il y a l'entraînement.
17 000 km, vous pouvez les faire.
17 000 km, non, pas les 17 000, mais il y a une petite partie.
Il y a un entraînement sportif pour faire ça. 500 mètres, quoi.
Ben, c'est quoi? Il faut se soulever de bras, mais...
C'est quoi? Alors, quel est le protocole, en fait? Parce que j'imagine qu'on a dû vous briefer, vous dire, voilà comment ça va se passer. Non?
Ou pas, c'est demain matin, il y a un protocole. Je sais qu'on a rendez-vous au Pharo et je sais que c'est une centaine ou 200 mètres à parcourir avec la flamme qu'on doit transmettre à un autre porteur de flamme. Donc, je sais qu'il y a des Marseillais, des anciens gloires du football marseillais. Il y a des très beaux noms. Il y a Tony Parker aussi. Il y a Colette. Il y a beaucoup de gens qui représentent la ville de Marseille et des artistes et des sportifs.
Eric
Dimeco, qu'on apprécie.
Le seul joueur marseillais qui en vaut la peine.
Non.
40 ans.
Ça y est, ça provoque.
Il y a Didier Deschamps, il y a Basile Boli,
il y a Drogba,
bien sûr. Jean-Pierre Papin.
Ah mais Eric Dimeco,
c'est Eric Dimeco. Parce qu'il bosse avec toi et que t'as peur de lui, c'est tout. Les autres, tu les connais pas, mais quand tu vas les croiser, tu vas te faire les croiser.
Et peut-être Zizou, parce qu'il y a un invité mystère.
C'est lui.
Est-ce que franchement, en tant que porteur de flamme et un peu dans la confidence, vous êtes au courant de l'invité mystère ou pas du tout?
Je suis pas au courant. Non mais vraiment, je suis pas au courant.
Il y a le nez qui pousse.
Non, je suis pas au courant parce que des fois, ils annoncent des personnes après. Si la personne ne vient pas, il y a une déception. Donc, on préfère pas annoncer et qu'il y ait la surprise. Ouais. Après, franchement, je sais pas. Moi, je suis déjà ravi pour moi d'être là et je suis content. Regardez, il fait beau. Ça, c'est un plateau qu'on n'aurait pas pu faire à Paris. Mm-hmm. Parce qu'il fait moins 14, il neige.
Oui.
Et c'est ça. Et on est super bien.
Ouais.
On a des invités de marque, Aya Nakamura, José Bové. Moi,
je suis
content.
Elle revient de New York pour le Met Gala. Oh,
oui,
elle
a... Exactement. Oh, j'aime tcha, couleur tcha. De cheveux.
Ben oui, c'est par rapport à la couleur de cheveux.
En fait, je le savais parce que je vous suis sur
les réseaux sociaux.
Et je sais que quand on est en première ligne, ouais, on prend cher.
Moi, j'ai refusé d'aller.
C'est pour ça que je me suis dit, oh zut, là, on va être en première ligne.
Oui, parce que la particularité. Mon anniversaire, pour mon anniversaire, on m'a offert des places au premier rang.
Mais pas de faire
c'est deux copains à moi qui m'ont dit, viens, on y va. Hein. Je sais, t'es malade. Donc, je vais faire insulter Jean Mandier.
C'est vrai que quand on vient vous voir.
Au premier rang, c'est
quand on vient vous voir, faut mieux être pauvre, en fait. Faut mieux être derrière.
Non, les amis, faut pas dire ça.
C'est
parce
la blague.
Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et c'est toujours fait avec amour et bienveillance. Du coup.
Mais est-ce que c'est vraiment la fête partout dans Marseille pour l'arrivée de la flamme? Ou est-ce que c'est juste là, dans le périmètre, qui va vivre l'arrivée du.
Non, c'est tout Marseille qui va faire la fête.
Vraiment.
C'est qu'il y a les supporters qui ont préparé des tifos. Animations.
Et les tifos.
Exactement. Il y a des tifos, il y a des animations. C'est toute la ville, c'est la fête. Ce soir, un super concert avec plus de 150 000 personnes qui sont attendues. Du coup, ça va. Je pense que c'est très, très bien ce qui se passe. C'est bien pour c'est un dynamisme de la ville.
On parle d'autre chose. C'est ça. Enfin, on parle. Un peu
on
de
parle
manière
de la
positive,
ville, on parle
de la des défaites de l'OM. Quoi.
Exactement. Non, on est toujours en lice pour la Coupe d'Europe. Mais après,
contrairement à d'autres,
c'est la Coupe d'Europe. C'est
la Ligue des Champions, vous la voyez à la télé quand même. Hein.
Ben non, il n'y a personne qui la regarde à la télé. C'est fini pour tout le monde.
Bah ouais. La prochaine, vous allez la regarder à la télé.
Non. On va peut-être, si on gagne de l'UEFA, on va la regarder à la télé, mais bien sûr. Mais c'est mauvais perdant.
Il a mauvaise
profil du soleil.
Hier, ils m'ont fait mal.
Qui ça?
Hier, tous.
J'ai pas vu qui
c'était. C'est quoi, Marseille m'a fait mal.
Non, mais c'est.
On a regardé le match d'un restaurant nulle part ailleurs là sur le vieux port. Ils nous ont tués.
Ça les prend avec Eric Dimeco.
On était sous.
C'est-à-dire que les Marseillais étaient plus allemands que les Allemands hier.
Voilà. Je pense qu'à Paris, il a manqué la flamme hier.
Ah oui, ça c'est sûr.
Il a manqué. Vraiment là.
Bon, c'est normal. C'est à Marseille.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai une question par rapport à ce rôle de porteur de flamme. Enfin, j'entends dans ta voix que tout ce que ça représente et tout. Moi, je trouve que il y a quelque chose qui me gêne là autour. C'est ces micro communautés qui se réclament de voir porter la flamme. Enfin, moi, tu vois, je suis un ancien rugbyman, moustachu, paysan, chauve. Donc, du coup, au nom de ma communauté, moustachu, chauve, ancien rugbyman, paysan, j'aimerais bien pouvoir porter la flamme, quoi.
Mais vous êtes d'où, monsieur?
Saône-et-Loire. Non, mais en dehors de Marseille.
Saône-et-Loire. Ils me disent, on va prendre Obélix qui va porter la flamme. C'est un mec du patelin. Il est ancien rugbyman. C'est la gloire du village.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Go! Moi, je suis Marseillais. Moi, c'est une fierté. J'habite là. Je suis la rue des Phocéens. On me dit de porter la flamme. Ce que représentent les Jeux Olympiques. On a grandi avec ça. Les valeurs de l'Olympisme. Et on vient de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est les planètes qui s'allient.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque micro-communauté revendique son droit à porter la flamme. Moi, c'est quelque chose qui me gêne.
Moi, on m'a invité. J'ai rien revendiqué. Maintenant, la flamme, elle passe par le.
Elle passe par tous les départements.
Elle passe par tous les départements et on met à l'honneur les artistes, les sportifs.
Attends, parce que Redouane, il y a aussi l'actualité. C'est quatre choses cette année, notamment le stade Vélodrome rempli en juin.
C'est ça.
Attends, il y a quand même. Peu d'humoristes capables de remplir le vélodrome. Hein.
Justement, on va en parler dans un instant, puisque comme Redon est arrivé un petit peu en retard.
On a le droit de le garder un peu.
Il a accepté de jouer les prolongations avec nous. Donc avec Didier José Bové Giraud, Joël Ayana Kamoura.
S'il vous plaît, c'est un opposant politique.
Mehdi Guézard, le flic en civil. Avec l'oreillette, le mec de sécurité.
Allez, à tout de suite avec les juges en direct de Marseille.
RMC, les grandes gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.
Salut, c'est Jérôme Roten.
RMC, Roten sans flamme.
Événement dès 18h dans Roten sans flamme. Les Marseillais sont aux portes d'une finale de Coupe d'Europe. Avant-match d'OM Atalanta avec Jean-Michel Larquet et Pascal Olmeta.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Rendez-vous dès 18h pour Roten sans flamme sur RMC.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Suite des GG en direct de Marseille, en direct de la terrasse du MUCEM, RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Avec aujourd'hui l'agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud, Joël Dagosséry qui est coach de vie. Nous sommes avec le patron de PME, Mehdi Guézard. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Tout à l'heure, nous serons rejoints par la secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté. C'est Sabrina Agresti-Roubache qui sera avec nous. C'est la régionale de l'étape aussi, Sabrina Agresti-Roubache. Avec elle, on va mesurer de quelle manière aussi l'ensemble des villes de France, des quartiers, des lieux populaires vont s'impliquer dans Paris 2024. Parce que si on se fie au sondage, on voit bien que quand même c'est l'enthousiasme. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de gagner le pays. Donc on en parlera avec Sabrina Agresti-Roubache tout à l'heure, elle sera avec nous. Mais pour le moment, il a décidé de jouer un peu les prolongations avec nous, Redouane Bouguerraba, l'humoriste marseillais qui va porter la flamme demain.
Oui, il fait partie des personnalités marseillaises retenues pour porter cette flamme qui, rappelons-le, arrive tout à l'heure vers 19h dans le port de Marseille. C'est Florent Manoudou qui sera le premier à porter cette flamme. Ensuite, il y a l'invité mystère, on ne sait pas trop qui, Zizou, selon Mehdi Guézard.
ZZ. C'est l'invité mystère.
Pour allumer le chaudron olympique. Mais il y a plein de personnalités, dont Redouane. Mais Redouane, il a 4 gros rendez-vous dans cette année 2024, et notamment le Vélodrome en juin.
Oui, à Marseille.
Comment on remplit le Vélodrome quand on est un humoriste? Parce que le Vélodrome, c'est souvent des gros shows.
Des rappeurs, des choses comme ça. Ouais, des artistes. Ouais,
seul sur scène.
Je suis seul sur scène. Bah, après, il va y avoir des surprises.
Il faut être bon, quoi.
Exactement, on n'a communiqué sur aucun artiste. Donc le seul artiste sur lequel on a communiqué, c'est sur moi. Il va y avoir des surprises. C'est pas pour décevoir les gens, annoncer qu'il va y avoir Beyoncé et qu'elle ne vient pas. C'est Aya dès qu'elle pourra. Mais voilà, c'est un show inédit avec beaucoup d'énergie et c'est une première. Ça va être un show en scène centrale, c'est-à-dire que pour justement casser le fait qu'on soit loin. Ça va être pas en fond de scène, mais on va être au milieu, un peu comme le Super Bowl aux États-Unis avec des écrans géants. Donc voilà.
Combien de personnes autour ?
Là, pour le moment, il y a 30 000, mais on vise 45 000. Donc ça fait beaucoup.
Mais moi, je voudrais revenir sur le parcours.
Si ça se double.
Parce que toute partie des réseaux sociaux,
oui.
Des rendez-vous qui étaient donnés aux internautes,
c'est ça.
C'était plusieurs jours dans la semaine. Et ça finit au Vélodrome.
C'est magnifique. Moi, je pensais finir à l'Olympia avec les lettres en rouge. Et ça s'est fini au Stade Vélodrome, c'est exceptionnel. Entre, on a fait 10 palais des sports, là à Paris, on fait 2 Bercy.
Parce qu'aujourd'hui, forcément, tout doit démarrer sur les réseaux sociaux si on veut ensuite remplir des
Non, moi j'ai démarré par les petites salles. Ouais, c'est les petites salles, mais les gens.
C'est
60 personnes. J'ai démarré 60 personnes, des petites salles. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de sacrifices. Gad Elmaleh a dit une très très belle phrase. Il a dit : si vous pensez qu'il suffit de parler au public pour avoir le succès de Redouane Bouguerraba, c'est comme si vous preniez la raquette de Nadal et espérez gagner Roland Garros. C'est exactement la même chose. C'est des années, comme disait Coluche, il faut toute une vie pour être connu du jour au lendemain. J'ai pas démarré hier, ça fait des années que je fais des allers-retours.
Il y a eu des galères aussi. Il est parti à Londres, je le suis depuis longtemps. Franchement, c'est.
Pourquoi tu l'as raconté là? Pourquoi tu
me fais rire?
Tu l'as découvert? Qu'est-ce que t'aimes chez lui?
Moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa répartie, c'est comment il casse.
C'est ça, il fait rire quand il parle pas de toi, quoi.
Non, quand il clash, quand il casse, et c'est sa répartie, c'est. Et aussi, c'est sa proximité avec le public. Moi, je pense que Redouane Bouguerraba, c'est un mec où il a été connu. Est reconnu par rapport à sa proximité au public. Il fait énormément d'impro et c'est ça qui est génial chez ce mec-là. C'est que il y a des artistes qui sont, enfin des humoristes qui préparent. On voit qu'il y a de la prépa, mais on voit qu'il y a aussi une grande part d'improvisation.
Combien alors? C'est quoi là?
Je sais pas, ça c'est lui. Mais en tout cas, moi je rigole de ça.
Ça dépend de la forme, ça peut aller de 15 minutes à 35 minutes.
Voilà. Et tu rigoles, tu sais, sur 1h30, 2h de spectacle, mais t'es mort de rire parce que tu peux être. Je vous le dis, tu peux être musulman, juif, chrétien, chinois, bouddhiste, américain, mexicain, français, algérien, tout ce que tu veux, il te fracasse, mais toujours dans le respect, dans le truc. Et en fait, C'est ce truc un peu cosmopolitain, c'est ouais, qui fait kiffer les gens et qui fait rire les gens. Après,
on peut se moquer de tout le monde sans problème.
On peut se moquer de tout le monde, mais il y a toujours des limites.
Voilà, du respect. C'est la façon de le faire aussi.
Mais oui, c'est on l'accepte quand c'est bien fait. Voilà. À partir du moment où c'est mal fait et qu'il y a un manque de respect et qu'on dépasse la limite, exactement. Les gens reviennent, demandent. C'est les premières places qui partent, c'est les places au premier rang. Il y en a plus. Les gens sont contents de revenir. Non, mais c'est pas du sadomasochisme. C'est que les gens, ils ont besoin de décompresser, de rire. On est dans des temps très difficiles avec des guerres, avec des crises, et les gens ont besoin de décompresser et c'est ce qu'on essaie de leur offrir.
Et l'une des premières questions qu'ils posent, excuse-moi hein, Didier, l'une des premières questions qu'ils posent à ces spectateurs, c'est quel métier vous faites ? Mais tu as de tout. Et le mec, il s'est même tapé des
on a des patrons de PMU à PME.
Et des inspecteurs des finances publiques. Une fois, il y en a là des impôts.
Des impôts.
Et tu vois, t'as vraiment de tout. T'as le mec, c'est un VTC. T'as l'autre, c'est un patron de PME. T'as l'autre, c'est un livreur.
Éleveur de chevaux.
Voilà, il a vraiment de... Et tu, en fait, il, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est bien.
Mais c'est beau, mais de chevaux de compétition. Donc
aujourd'hui, t'as l'éleveur de bœuf. Moi, j'avais une question par rapport... Tu penses quoi des artistes qui se font dégager de la radio, parce qu'il y en a eu un il y a pas longtemps.
Guillaume Meurice.
Ouais, Guillaume Meurice, parce qu'ils vont trop loin dans leur humour. Est-ce que tu penses que c'est du coup mal fait, ou est-ce que c'est normal qu'ils se fassent dégager de l'antenne, ou est-ce qu'on a plus le droit de rien dire?
Je pense qu'on devrait pas virer les gens par rapport
à leur blague.
C'est sous le couvert d'humour, et je pense qu'il y a une liberté d'expression et il faut pas virer les gens pour ça. On sait très bien que la personne que vous avez engagée, elle va faire des blagues. Oui. Et on sait que c'est des blagues.
Payé pour ça.
C'est un billet d'humour.
Elle est payée
c'est
pour
pas,
ça. Okay.
Il n'est pas arrivé pour faire de la politique. Maintenant, ah, s'il voilà. est au Sénat, dans un cadre politique, là, qu'il se fasse dégager, ok, parce qu'il a dépassé les limites. Mais là, il est à la radio. On sait que c'est un humoriste.
C'est la liberté d'expression. Exactement. À géométrie variable.
Variable, c'est ça.
Voilà.
Merci, Redouane.
Merci les Men in Black. J'étais vraiment content de vous.
Hein. On n'a pas l'habitude. On vient de Paris.
Beaucoup de soleil.
Allez, merci.
On va rentrer. Violet, c'est en train de se rosifier en temps réel. Ouais, mais il faut une crème anti-UV parce que là, j'ai peur pour lui. Hein.
Je vais mettre la casquette.
Ça peut les grands gars, ça te les grands brûlés.
Les GG continuent de discuter des Jeux Olympiques et on va accueillir notamment Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État en charge de la ville. Mais c'est sympa d'avoir Edon parce que. En fait, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de regarder les chiffres. Moi, j'ai été épaté quand on a préparé. Pas trop populaire. Sur les réseaux sociaux, je le connais, j'ai déjà entendu, effectivement, c'est un chambre. 700 millions de vues, les vidéos. Ouais. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, ce sont des vrais phénomènes qui passent par les réseaux sociaux, par, comme tu le disais, par Instagram. Je regardais le nombre de gens qui le suivent sur Instagram aussi. 1,7 million.
Oui, mais ce qui est intéressant, ce qui rappelle quand même que le métier, ça s'apprend aussi sur scène.
Ouais. Ouais.
Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en faisant des vannes sur Instagram, tu vas terminer au Vélodrome. Ouais. Il a fait de la scène. Comme Yannick Mallet et toute la bande, ils ont tous appris leur métier petit à petit.
Il a travaillé.
Pas du jour au lendemain.
Puis c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Alors, il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous là.
Ah.
C'est David Douillet qui est en ligne avec. Avec
il n'est pas encore à Marseille.
Avec les GG. Bonjour David.
Bonjour. David,
double champion olympique.
Mais dis-moi David, t'étais parti à quelle heure là? Parce qu'on t'attend à Marseille.
Je suis parti à 6h30 et malheureusement, beaucoup de gens font le pont. Ça a été une catastrophe au sud de Lyon jusqu'à la jonction pour aller sur Montpellier. Il y a eu des bouchons monstrueux. Mais bon, là je suis en bonne voie là.
En bonne voie pour arriver demain normalement alors, c'est ça.
Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu.
Non, je disais c'était une vanne, je disais pour arriver demain. Mais David, l'important c'est d'être présent à la fête. Ici à Marseille, le double champion olympique que tu es, comment il va vivre cette arrivée de la flamme alors?
C'est un petit peu le démarrage des Jeux en fait. Hein. La flamme arrive en France. Elle sera portée par Florent Manodou qui va lui concourir cet été. Donc c'est un petit peu le voilà, ça y est, on y est maintenant. reste plus que ce parcours dans tout l'Hexagone, en fait, elle va annoncer attention, ça va démarrer, attention, ça va démarrer. C'est pour moi, c'est déjà une préouverture des Jeux Olympiques.
David, dans un récent sondage publié sur BFM TV, une majorité de Français exprime une certaine indifférence. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que parce qu'on est encore à deux mois des Jeux, est-ce que ça va monter en puissance ? Comment faire que, en sorte que tous les Français s'emparent de l'événement ?
Bah justement, c'est un peu le rôle de la flamme que de dire, voilà, avec toutes les manifestations qui vont se dérouler et qui vont démarrer là maintenant à Marseille, qui ont déjà démarré hier soir d'ailleurs, l'engouement, l'information et puis la pression va commencer à arriver. Quelquefois, l'actualité, la conjoncture fait que les Français, et c'est bien normal, sont préoccupés par d'autres problèmes. Et là, l'été va arriver avec la fête mondiale. On va devenir le centre du monde pendant une période avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça, les gens vont en prendre conscience au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler à partir d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir arrêter de râler, notamment pour les Parisiens et autres, en disant c'est la pagaille, ça va pas être prêt, pour passer à une phase un peu plus enthousiaste. Quoi. Ça, c'est peut-être plus le rôle des athlètes, des médaillés et autres, David.
Ouais, exactement. En fait, on a parlé que des choses qui fâchent. Moi, je dirais, enfin, sans choquer personne, on s'est focalisé sur des petits détails qui vont faire que il va y avoir quelques inconvénients. Mais quand on accueille la plus grande scène de spectacle du monde pendant plus d'un mois, eh ben, bien sûr qu'il y a des petits soucis collatéraux. Mais cette fête-là, elle va booster pendant plus de 30 ans, 40 ans, peut-être plus, la culture du sport, l'envie de faire du sport dans notre pays. Et ça, c'est indéniablement une plus-value par rapport aux gens aujourd'hui, à leurs enfants et à leurs petits-enfants qui vont profiter de tout ce que le sport peut apporter à un individu. Et ça, les gens ne s'en rendent pas bien compte. C'est à nous de le dire et de l'expliquer. Qu'un jour, en poussant la porte d'une association sportive, qu'on soit champion ou pas, et ben, ça vous change la vie.
Didier Giraud.
Ouais, du coup, moi, je m'interroge, David, sur le fait que on soit prêt derrière à accueillir tous ces enfants dans les associations sportives locales, on va dire, parce que, enfin, moi qui suis un enfant du rugby et je vois comment c'est compliqué aujourd'hui dans les petits clubs pour boucler les budgets, pour avoir des bénévoles, des éducateurs formés, et je me dis. Qu'est-ce que sera le ruissellement derrière ces jeux dans les assos sportives ? Est-ce qu'on sera capable d'absorber un flux ou pas, quoi ?
Bien sûr, ça je suis entièrement d'accord. L'anticipation par rapport à l'engouement, il est pas suffisant. Mais par contre, il faut pas baisser le pavillon tout de suite. Les choses doivent être prises en relais justement après les Jeux, même si on n'est pas, à mon avis, suffisamment préparé pour absorber cette vague qui, j'espère, arrivera dans notre pays grâce aux Jeux. Tout va se mettre en marche. L'État, en premier lieu, va se mettre en marche. Les collectivités locales, les départements, les régions, ça va aller jusqu'aux comités départementaux, dans les plus fines capillarités, à travers les clubs aussi, puis à travers aussi un tissu en particulier, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus, un tissu d'entreprises, de sociétés qui auront à cœur, à travers notamment leur politique RSE au sein de leur activité, eh bien de mettre en place et d'avoir compris que sociétalement parlant, le sport peut booster des générations, peut les construire, peut les édifier et faire en sorte que une société s'apaise grâce à tout ça. Voilà. Donc je suis très optimiste par rapport à ça et j'espère que cette magie va opérer.
Merci David Douillet. À tout à l'heure, donc en direct de Marseille, Madame la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache.
Bonjour.
Bonjour. Est en train de s'asseoir, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. On va parler de cette fête, savoir comment elle va être vécue ici à Marseille avec vous qui êtes la régionale de l'étape. Sabrina Agresti-Roubache avec nous dans un instant en direct sur RMC dans les GG, dans les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
En direct de Marseille, les GG sur RMC, la radio, RMC Story et la télé. Mehdi Guézard, le patron de PME, nous a accompagnés avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, avec Joël Dagosséry, coach de vie. On est face à la Méditerranée dans l'attente de l'arrivée du Belém. La flamme arrivera en fin d'après-midi, début de soirée, avec l'allumage bien sûr de la vasque.
Le Belém est au large, hein. On l'a vu tout à l'heure.
On le voit. On l'a aperçu
à l'horizon.
Il bouge un peu, comme on dit, il fait des ronds dans l'eau en attendant l'événement, la cérémonie, bien sûr. On va accueillir notre invité.
RMC, les Grandes Gueules.
On l'a déjà salué, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. S'il y a bien la régionale de l'étape, c'est bien Madame Agresti-Roubache.
Ben oui. La Marseillaise de l'étape.
On est fiers, là. Tous les Marseillais sont fiers d'accueillir la flamme. Vous êtes fiers d'accueillir la flamme?
Moi, à titre personnel, en tant que Marseillaise, très fière. En tant que ministre, encore plus fière. Et les Marseillais, évidemment. Vous savez, les Marseillais ont toujours été au rendez-vous de l'histoire. On a beaucoup de défauts, mais on est toujours au rendez-vous de l'histoire. On l'a été à la Coupe du Monde 98, pour ce qui est plus récent pour moi, de ma génération, et sur Marseille, capitale de la culture. On l'a été, et là, avec la flamme qui arrive à Marseille, accueillie par le président de la République, le plus marseillais de la 5e, donc on ne peut que être fiers.
Pourquoi il adore autant Marseille? Vous avez discuté avec Emmanuel Macron de sa passion pour Marseille?
Oui, je l'avais expliqué une fois. Je pense que le caractère, le tempérament, le potentiel de la ville. La jeunesse, on a quand même plus de 50% de la population qui a moins de 18 ans. Enfin, on a des atouts, mais le tempérament de la ville.
Oui, mais vous avez des atouts, mais dernièrement dans l'actualité, Sabrina Agresti-Roubache, on a parlé d'une ville qui est gangrénée par la drogue, on parlait même d'une narcoville, on parle de ces règlements de compte avec des jeunes de plus en plus jeunes qui tombent sous les balles. Donc, c'est ça aussi Marseille. Marseille, c'était surtout ça.
Alors, Olivier, vous parlez à une ministre qui est née dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Donc, ça, première chose. Donc, j'ai grandi dans le quartier de la French Connection, donc pas loin de la Belle de Mai, dans le 3e. Ce qu'on a fait récemment, j'ai écouté, moi, beaucoup de commentaires qui venaient depuis Paris, et je suis toujours frappée par tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Non, quand tu vas exploser un point de deal, ça sert pas à rien. Tu changes la vie des gens.
Opérations Place Net.
Regarde, les fameuses Place Net XXL, exactement, du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin. Regardez à la Paternelle, il y a eu un très bon article la dernière fois du Figaro qui expliquait qu'ils sont allés voir les gens. Il faut parler avec les habitants pour comprendre. Et quand les points de deal sont supprimés, je rappelle trois chiffres à Marseille, c'est très important, plus de 70 points de deal supprimés en 2 ans, c'est pas rien. Sur ces opérations, hier, j'étais en Allemagne, à Hambourg, à une grande réunion sur justement la lutte contre la criminalité, et j'annonçais des chiffres. 3800 personnes arrêtées, 20 millions d'euros de cash saisis, 4 tonnes de drogue saisies. Enfin, ça veut dire quelque chose. Donc, Moi, je refuse qu'on nous traite ou qu'on nous qualifie de narcoville. Mais rappelez-vous, j'avais été la première à dire, pas de consommateur, pas de dealer. Qui vient acheter, sa drogue dans nos quartiers populaires, vous pensez? Ceux qui ont les moyens de se payer de la drogue. Oui. Moi, jusque-là, j'ai pas encore...
Tout le monde, parce qu'on a l'impression que le cannabis est partout maintenant.
5 millions de consommateurs.
Il n'y a pas que des cadres qui fument.
Non, bien sûr que non. Mais évidemment,
tout le monde, il y a des jeunes, des moins jeunes.
Ça concerne tout le monde. 5 millions de consommateurs. Et j'avais pas fini le reste de mon explication. J'avais dit aussi, mais ça avait moins intéressé parce que c'était moins cash. Je disais, mais consommer de la drogue, en fait, c'est une addiction. Donc maintenant que j'ai la charge justement de la prévention de la délinquance, j'ai mis en numéro 1 la lutte contre les conduites addictives, la lutte contre les conduites à risque, et j'ai mis la santé mentale. Parce que je pense que de continuer à dire juste la légalisation serait le fameux, enfin vraiment la potion magique pour en venir à bout, aller voir ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé. Je vous dis, je reviens de cette réunion où je représentais le ministre de l'Intérieur. Donc non, ma ville, c'est pas ça. Notre ville, c'est pas que ça.
Vous ne croyez pas du tout à la légalisation du cannabis ?
Pas tant que, alors je vais vous dire une chose, tant que vous aurez des réseaux criminels de trafiquants surarmés financièrement, vous n'y arriverez pas, on n'y arrivera pas. Il faut bien démarrer quelque part. Moi, ce en quoi je crois, c'est que tant qu'on continuera à leur mener la vie dure, hier je le disais, il faut être intraitable. Intraitable parce que vous savez, on essaye toujours de fantasmer. Pareil, vous savez, la voyoucratie à Marseille, elle a été fantasmée. Mais ce sont des gens quand même qui n'ont ni foi ni loi, qui tueraient père et mère, et rappeler ce qu'ils sont et tout le mal qu'ils provoquent. Une famille qui est touchée par la drogue, vous dites règlement de compte, moi je dis assassinat. Je dis plus règlement de compte, parce qu'on a des jeunes et des enfants qui meurent, de plus en plus jeunes. En revanche, est-ce que tout est fini ? Non, parce que je travaille par exemple avec le collectif d'une amie d'enfance, à moi, Aïcha, qui a perdu son fils. Ça a été le premier règlement de compte filmé, qui a tourné sur les réseaux sociaux, il avait 21 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait, Aïcha ? Vous croyez qu'elle a baissé les bras ? Elle a monté un collectif et on travaille ensemble, justement, sur la prévention et l'accompagnement des victimes.
Je peux vous poser une question.
Je vous poser une question personnelle.
Oui.
Très personnelle. Vous voyez si vous y répondez ou pas. Quand on a grandi, en général, dans ces quartiers, on a forcément autour de soi quelqu'un qui a été touché ou qui est tombé dans la drogue. Est-ce que ça vous est arrivé, vous ?
Évidemment que oui. J'ai perdu... Enfin, je vous montre ma photo de classe. La moitié de mes amis d'enfance, où ils sont morts, où ils sont en prison. Enfin, c'est ça, c'est la réalité. Quand tu es né à Félix Fiat, enfin, je rappelle juste que c'est Félix Fiat, une cité dans laquelle on a été très heureux. J'ai été très heureux, je le disais, dans mon livre, j'ai eu une enfance magnifique, mais parce que j'avais des parents, j'ai reçu une éducation, j'ai eu la chance. La réalité.
Ça, c'est votre
qui a changé par rapport à ça. Comment vous expliquez justement autour de vous, puisque vous avez dit, quand je regarde ma photo de classe, il y en a plein qui sont en prison ou morts.
Ouais.
Comment ils sont tombés là-dedans ? Pourquoi ils sont tombés là-dedans et pourquoi ? Alors vous parlez de vos parents, donc ça veut dire que eux, les parents n'étaient pas là, c'était déstructuré.
Pas que. En fait, si on minimise le sujet à ce sujet, enfin on n'y arrivera pas. C'est pas ça. La réalité, c'est que ils ont fait le choix du mauvais côté de la barrière. Et je l'ai toujours dit, il y a un bon côté, un mauvais côté. Ils ont choisi le mauvais côté de la barrière.
Donc c'est des choix personnels.
Absolument.
À un moment donné, il y a une responsabilité individuelle.
Exactement, je parle de responsabilité. Vous savez, moi je côtoie, dans mes amis d'enfance, il y avait des parents formidables. Et dans la même famille, vous avez des minots qui tournent bien et des minots qui tournent mal. Allez l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que la cellule familiale, en tout cas que j'ai eu la chance d'avoir, l'éducation et l'instruction, l'école. Moi j'ai rencontré des profs formidables. Donc, et je suis allée dans les écoles qui maintenant font partie justement du Marseille en grand en termes de rénovation et de restructuration totale. Mais la réalité, c'est que je crois quand même que de toujours dire que tout est foutu, c'est terrible pour moi. N'est pas foutu.
Madame la ministre.
Est-ce que j'ai répondu à
Vous avez répondu, je vous remercie. Attendez, pause, parce qu'on a quelqu'un, on a Julien Richard qui est sur le BLM.
Ah.
En direct pour RMC, journaliste RMC, Julien Richard du service des sports sur le BLM.
Pas tout seul. Hein.
Bien évidemment. comment ça se passe sur ce magnifique voilier, Julien, alors ?
Alors, je viens juste de monter à bord. Ce sont des images assez impressionnantes. Alors déjà, il y a un grand ciel bleu, ça vous aura pas échappé. Et tout autour du bateau, il y a une nuée de bateaux suiveurs. C'est 1024 bateaux qui vont accompagner le BLM jusque dans le Vieux-Port sur cette parade, rade nord, rade sud, pour arriver à 19h dans le Vieux-Port. Donc c'est très très impressionnant. Il y a un bateau de la Marine Nationale qui l'escorte, qui ouvre la voie. Tout à l'heure à 11h, au moment du lancement de cette parade nautique, il y avait également un bateau-pompe des marins-pompiers qui a lancé ses jets d'eau. On a entendu également des cris, des sirènes, des cornes de brume, ça on ne pouvait pas y échapper. Allez l'OM qui ont été lancés depuis les bateaux suiveurs. Ça n'a pas déplu à deux des 16, il y a 16 jeunes qui ont embarqué à bord depuis Athènes, qui ont fait les 12 jours de traversée, qui ont été sélectionnés par la Caisse d'épargne. Et deux d'entre eux sont marseillais. Le maire de la ville leur a d'ailleurs confié un drapeau avant le départ. Et je peux vous dire qu'ils ont repris en cœur, évidemment, les Allez l'OM. Je vois le commandant là qui est pas très loin de moi, qui est en train de s'activer, de surveiller, parce que c'est évidemment temps assez périlleux. Le Belém sous bonne escorte. Je vous parlais du bateau de la Marine nationale, mais il y a également une nuée de Zodiac, des forces d'intervention qui sont tout autour et qui empêchent, qui forment une sorte de cordon de sécurité autour de ce Belém. Et tout l'équipage, tous les jeunes, tous les marins professionnels également à bord, bien on hâte maintenant de se diriger vers le vieux port que l'on aperçoit au loin. On voit la bonne mer au loin et on hâte de
arriver prévu à quelle heure, Julien?
Alors l'arrivée est prévue aux alentours de 19h, hein, l'entrée dans le vieux port avec un tifo des South Winners, c'est le groupe principal des supporters de l'Olympique de Marseille qui a confectionné un immense tifo. Il y aura des fumigènes, il y a une grosse fête de prévue à ce moment-là aux alentours de 19h. La patrouille de France aussi qui va survoler tout ça avec les traditionnelles couleurs bleu, blanc, rouge, mais pas que. Il y aura une petite surprise avec les anneaux olympiques qui seront formés dans le ciel au-dessus du vieux port jusqu'à ce que Florent Manodou vers 19h40 ne débarque avec la femme olympique.
On a hâte de vivre ça. Merci Julien Richard qui est l'un des rares journalistes à pouvoir être en direct du Belém, puisque je vous le rappelle que RMC est la radio officielle de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Joël, pardon, oui. Je te redonne la main pour ta question.
Non, Madame la Ministre, moi je suis comme vous, hein, j'ai grandi dans des quartiers dans le 93, donc en Ile-de-France, qui était un quartier très riche, notamment à Saint-Ouen qui est une plaque tournante du trafic de drogue, et je suis comme vous, la moitié de mes copains sur la photo de classe sont tous passés par la case prison. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est qu'on démantèle, on fait place nette XXL dans plein de quartiers, mais c'est quoi l'alternative? Quand vous avez enlevé les deals, les points de deal, qui d'ailleurs je pense vont revenir, mais bon, quand
non,
vous les avez
enlevés.
Non, mais attendez, c'est quoi l'alternative quand on démantèle